Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Professeur de français dans les ghettos de Belfast, Patrick Frillet démarre sa carrière de journaliste comme correspondant pour le journal Libération en Irlande du Nord. Il intègre peu après l'agence Sipa Press comme photographe. Les reportages s'enchaînent et il se spécialise dans les guérillas, luttes de libération et conflits sociaux violents. Après une longue carrière de photojournaliste, il crée en 2018 une agence de voyage pour amateurs et photographes passionnés. Patrick aime avant tout partager les rencontres et son goût du voyage qui ont rythmé sa vie professionnelle et personnelle. Dans cette émission Regarde ailleurs, Patrick nous emmène à ses côtés sur les chemins du monde. On va revenir un peu à la genèse du personnage, aux origines, et raconte-moi ce qui fait que tu te sois lancé dans cette dynamique de l'image et du voyage.
Malheureusement, je n'ai pas encore perdu la boule, donc je vais pouvoir te parler de ça, parce que je crois que c'est encore comme si c'était hier. Le voyage, moi, ça a été la rencontre. J'étais en terminale et j'ai rencontré Michel Pessel. Et ça a été la rencontre. Je foutais rien, moi, à l'école. J'étais un flemmard, j'étais un glandu, etc. Et puis, je me suis retrouvé en terminale avec un prof de philo extraordinaire et puis avec un prof de français fabuleux et qui m'a fait rencontrer Michel Pessel, qui est venu faire une conférence dans mon bahut. Et ça a été, la conférence s'est terminée. J'ai passé 3 heures avec lui. Il m'a dédicacé son bouquin que j'ai encore là. Et ça, là, ça m'a donné envie de voyager. Il s'avère qu'en est arrivé 68 après, où évidemment, bah là, moi venant d'une famille plutôt d'origine bourgeoise et tout ça, bah j'ai découvert qu'il y avait autre chose. Et je me suis, à partir de ce moment-là, et j'ai jamais décroché de ça, je me suis tourné vers les autres. Et tourner vers les autres, bah, ça a été 68, ça a été 72 où j'ai pris une grenade dans la gueule, ça a été en 69 où je suis parti en stop. Non, pas 69, oui, en 69, j'ai passé mon bac et mon père me dit « Bon, bah, alors, qu'est-ce que tu veux comme voiture ? Je vais t'acheter une voiture neuve d'occasion. » C'est un peu le milieu, c'était, voilà, à l'époque, ça se faisait. Et puis, je le regardais dans les yeux, je lui dis « Non, je ne veux pas une voiture, je veux un billet d'avion pour partir en Inde. » Et bah, il a accepté, il m'a dit « Tu pars avec un copain ?» Et j'ai dit « Ok, bon, bah, je vais trouver un copain. » Le lendemain, j'étais au bahut, le meilleur élève de ma classe d'histoire géo. Je lui dis, dis donc, tu veux pas venir avec moi en Inde ? Ah ouais, c'est une super idée, etc. Et nous voilà partis. Donc, mon père me paye un billet charter. Mon copain se fait payer son billet charter pour Bombay. On part avec l'équivalent de, à l'époque, peut-être 500 euros ou l'équivalent un peu moins en poche. Et mon copain est rentré au bout de 3 jours. Complètement décontenancé. Il trouvait que les Indiens le tripotaient trop, il avait trop chaud, il avait chopé la diarrhée parce qu'évidemment la nourriture ne lui convenait pas. Et puis moi j'étais dans mon élément, donc j'ai rien dit à mon père. Lui il est rentré et je suis resté 2 mois et demi en Inde. Et 2 mois et demi à dormir dans les temples, à dormir dans les gares, à dormir par terre, à dormir dans les trains. Et ça a été mon initiation au voyage.
Et là t'avais quel âge en 69 quand tu es parti en Inde pour la première fois?
J'avais 19 ans. Donc j'avais 19 ans. Et après, ça a été ma drogue, hein. Ça a été mon shoot et j'avais besoin de ça. Je crois que quand on tombe dans cette marmite-là, c'est foutu et c'est pour la vie. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 70 balais et que c'est encore mon kiff aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est... Et alors, je suis parti en Inde. L'année d'après, j'avais plus le billet d'avion, mais je suis reparti par la route. Donc, je suis reparti en stop. Je pensais arriver jusqu'en Afghanistan. Et je me suis dit, bon, allez, je vais aller à Kaboul. Je vais aller me fumer quelques joints là-bas, quoi, comme faisait tout le monde à l'époque. Ou à Katmandou, mais bon, ça faisait plus loin. Je n'avais pas les moyens. J'avais travaillé un peu. J'étais en première année de fac. J'avais fait du droit parce que j'étais bien obéissant à mes parents et que le droit, c'était ce qu'il fallait faire. Et puis, ça ne m'a pas du tout convenu. Donc, avant la fin de l'année, je me suis retrouvé déjà en taule suite à une manif à Paris, etc. Donc, je n'ai pas pu finir mon année. Et puis, j'ai pris la route. J'ai pris la route, je suis parti donc jusqu'à Kaboul. Et entre-temps, l'amour a fait que j'ai rencontré une petite Singhalaise et qui était une étudiante de Sri Lanka et qui partait au Sri Lanka pour faire un bilan et un compte-rendu aux étudiants Sri Lankais qui vivaient à Londres, un compte-rendu sur la guérilla guévariste qui se déroulait au Sri Lanka à ce moment-là. Et me voilà parti au Sri Lanka avec elle, alors que je devais m'arrêter en Afghanistan. Et on continue en train, en bus, etc. Et on se retrouve au Sri Lanka. Et j'ai vécu pendant un mois et demi la guérilla guévariste au Sri Lanka et à animer des meetings en parlant de 68 à Paris, qui était évidemment le truc à raconter auprès des populations là-bas. Alors moi, je faisais un speech de 5 minutes et la traduction, elle, durait une heure et demie. Donc pendant une heure et demie, ils brodaient autour de ce que j'avais dit et puis ils racontaient ce qu'ils voulaient. Mais c'était à mourir de rire. Et ça se terminait toujours par « Vive la lutte confraternelle des peuples français et cingalais ». Et de là, bah, l'année suivante, je suis parti en Afrique, je suis parti au Cameroun. Et c'était à la fin de la guerre du Biafra. Je me suis fait foutre en tôle au Biafra.
Mais là, quand tu dis que tu continues à partir, à voyager, il y avait un projet derrière. C'était simplement les découvrir, les hommes qui peuplent cette planète. Quel était le moteur, le feu? Quelle était l'intention que tu posais dans chacun de tes voyages et tes déplacements?
C'était la rencontre, la découverte. Mais comme aujourd'hui, chaque fois que je pars voyager aujourd'hui, mais même à deux rues de chez moi, c'est la découverte, la rencontre, le partage, la communication avec l'autre, c'est ce qui m'intéresse. Quand on s'est rencontrés tous les deux, c'était l'histoire de tchatcher, de se rencontrer, de parler d'expérience, de vécu. Et puis on rencontre des personnages extraordinaires avec qui on a envie de faire un bout de chemin. Et l'Afrique, ça a été ça. Ensuite, ça a été l'Amazonie. J'ai traversé toute une partie de l'Amazonie en 71 ou 70, je ne me souviens plus exactement. 71, ça devait être. Non, oui, 71. J'ai traversé toute une partie en pirogue. Je suis parti de l'autre côté de la Cordillère Blanche, donc au Pérou. Et je me suis retrouvé donc en Amazonie brésilienne, en Amazonie du côté de Manaus et tous ces coins-là. Et j'avais tout traversé en pirogue avec des gars qui faisaient des recherches pétrolifères là-bas, qui cherchaient du pétrole. Avec des gars qui transportaient des locaux, qui transportaient des pots de porc épic. Je me suis jamais fait autant bouffer par des insectes que sur les pots de porc épic sur lesquels je dormais. Mais ça a été des rencontres avec les peuplades là-bas, avec les tribus d'Amazonie. Mais ça a été des moments extraordinaires. Et je faisais donc un peu de photos déjà à ce moment-là. Et surtout, je me suis mis à la photo, puisqu'on en parlait, en 73. Je suis parti en Irlande du Nord enseigner, donc enseigner le français, puisque j'avais mon niveau d'études qui me permettait de partir comme prof là-bas avec un système d'équivalence. Et je me suis retrouvé comme prof de français à Belfast, en pleine guerre civile. C'était mon choix, c'était un choix politique. J'avais envie d'aller voir ce qui se passait, cette guerre anti-impérialiste qui se passait aux portes de chez nous, à moins d'une heure de Paris en avion. Et donc, je suis parti 2 ans vivre là-bas. J'ai fait un doctorat là-bas. J'ai fait une thèse sur l'influence de la guerre civile sur le comportement des enfants. Et de fil en aiguille, j'ai fait de plus en plus de photos là-bas. Et puis, j'ai commencé à travailler bien pour le Sinn Féin là-bas. Donc, j'ai commencé à travailler pour le mouvement républicain. J'étais correspondant à l'époque pour Libération. Donc, j'ai envoyé mes photos à Libération. Ils m'ont sorti, je crois, 2 articles, mais pas plus. Je crois que j'ai eu dans ma vie 2 articles dans Libé. Mais j'avais mis un pied à l'étrier de la presse et de la photo professionnelle. Et quand je suis rentré d'Irlande du Nord, donc c'était en 74, fin 74, j'ai été frappé à la porte d'une agence de presse. Et non, c'est eux qui m'ont appelé d'ailleurs, c'est eux qui m'ont appelé, c'était l'agence SIPA Presse. Le patron m'appelle en me disant, on aimerait bien voir ce que vous avez, on sait que vous avez fait beaucoup de photos en Irlande du Nord, vous y avez habité pendant 2 ans, vous avez sûrement des choses qu'on n'a pas vues, vous étiez sur place, donc vous aviez autre chose sûrement que les correspondants qui venaient passer 3-4 jours quand il y avait des émeutes ou quand il y avait quelque chose. Et j'ai montré mon travail et là, ça leur a tout de suite plu, ils ont pris tout mon travail, ils l'ont diffusé un peu partout dans le monde. Et puis en 75, l'été... Donc 75, je suis parti, ils m'ont envoyé sur la marche verte qui était la marche organisée par Hassan II au Maroc quand il a fallu s'emparer du Sahara espagnol. D'où tout le démarrage et tout le départ du Front Polisario et de la lutte de libération aujourd'hui du Front Polisario contre le Maroc.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
On va décortiquer un peu tout ça, mais ce que j'entends dans ce que tu me racontes, c'est que tu fais partie de ces gens qui ont toujours mis leur choix personnel, leur vie, leur rêve en fait, en avant. La photographie est peut-être plus un moyen pour toi de réaliser ta vie personnelle et ce rêve d'aller à la rencontre du monde, des autres.
C'est vrai que la photo pour moi, et alors surtout le fait que je sois rentré un peu dans le photojournalisme, le photojournalisme implique la photo sociale ou sociétale, elle implique la photo de l'autre. Je ne suis pas un photographe paysagiste, même si je sais le faire parce qu'avec le temps, on apprend à tout faire. Je ne suis pas un photographe de nature morte, je ne suis pas un photographe de nu, ni un photographe de mannequin, je ne suis pas un photographe de studio, je suis un photographe d'action et je suis un photographe de la rue. Et la rue, c'est ce qui me parle. C'est dans la rue qu'on fait des rencontres. J'ai monté plusieurs années après une école de photojournalisme à Paris avec Yann Morvan, qui est un autre photographe qui est très connu. On a monté ensemble une formation de photojournalisme. C'était la première qui existait en Europe. C'était en 90, beaucoup plus tard. Et je disais aux gens qui venaient, aux étudiants qui venaient, je dis, mais voilà, ce que je recherchais en eux, c'était la rencontre humaine. Et ce n'était pas simplement leur qualité photographique, c'était plus leur qualité humaine. Ce qui m'intéressait plus, c'était de tomber sur des jeunes qui, par exemple, faisaient du filmage au sport d'hiver ou sur les plages l'été, parce qu'ils savaient s'adresser aux gens, ils savaient les faire rigoler, ils savaient obtenir les photos qu'ils voulaient. Et on va beaucoup plus loin. Et puis après, j'avais de très, très bons photographes que je ne prenais pas en stage parce qu'ils étaient d'une timidité sans nom et que c'était des photographes, je vais les appeler des photographes d'art, mais qui n'ont aucun contact avec l'autre, avec l'humain. Et ça me branchait pas. Pour être un bon photographe aujourd'hui de rue, un street photographer ou un bon photojournaliste, il faut aimer l'autre. Il faut aimer l'autre et surtout s'intéresser à l'autre, essayer de... Comme disait, je crois que c'était Nietzsche qui disait, il faut faire accoucher, non c'est Freud qui disait, il faut faire accoucher les esprits. Ben, je crois que le rôle d'un photojournaliste, c'est ça. Et moi, mon rôle, ma vie, ça a été ça en permanence. Moi, dès que je rencontre quelqu'un de nouveau, je l'écoute, je lui raconte ma vie, il me raconte la sienne, il y a un échange. C'est un moment fabuleux, c'est un moment extraordinaire. Ça n'a pas de prix, ça.
Tu es parti en Inde à 19 ans. À ce moment-là, tu ne savais pas du tout encore que tu allais devenir photographe. Tu étudiais le droit. À quel moment la photographie a pris la place qui t'a permis d'en vivre?
Je ne savais pas que j'allais devenir photographe, mais j'étais quand même parti avec un appareil photo. Ma mère avait à l'époque un Voigtlander, un appareil photo allemand, voilà. Et donc, elle m'avait prêté son Voigtlander pour partir en Inde. Et j'avais acheté, j'étais parti pour deux mois et demi, et j'avais acheté 5 pellicules. C'était énorme, 5 pellicules, mais c'était un investissement, c'était 5 péloches, 5 fois 36 vues, quoi. Imagine, 170 photos en 2 mois et demi. Aujourd'hui, ça me fait rigoler. Mais ces 170 photos que j'ai faites à l'époque, elles avaient été sélectionnées, choisies, etc. Et figuraient dans ces photos, je m'en suis rendu compte après, que des photos d'enfants, de femmes et de vieux. Et c'était, voilà, l'humain, et l'humain dans ce qu'il y a de plus beau, l'enfance, les jolies filles, et puis des gens avec des visages burinés, etc. Et tous ces visages racontaient une histoire, quoi. Et c'était pas juste une photo, il y a eu quelques photos faites à la volée, mais c'était aussi une rencontre. Mais une rencontre qui peut, malheureusement, de par la langue, une rencontre qui peut être uniquement un clin d'œil visuel. Mais il y a un échange, il y a un partage, il y a quelque chose, le courant passe quand on fait une photo. Et encore aujourd'hui, c'est ça. Et puis maintenant, je vais beaucoup plus loin dans mes images. Et donc, ça me fait rigoler de penser que je suis parti avec 5 pellicules qui m'ont coûté un bras parce qu'il a fallu les faire développer au retour et développer, tirer sur papier. J'avais 19 ans, ça coûtait la peau des fesses, quoi. C'était pas dans mon budget.
Tu les as encore, ces photos? Tu les regardes parfois?
Oui, je les ai encore. Je les ai encore. Et alors, étonnamment, c'est que quand je suis rentré en agence de presse, ils me les ont prises parce qu'ils les trouvaient sympas. Et j'en ai une, bah, comme je te montrais tout à l'heure, une photo que j'avais faite d'un enfant au Cameroun, dans une tribu. Et cette photo, peut-être 6 ans plus tard, elle a été utilisée par la marque Nikon pour faire une photo dans tout Paris sur les abribus. Et c'est cette tronche du petit, un petit black qui a 8 ans ou 7 ans, qui est tout mignon et qui a été placardé sur tous les abribus de Paris.
Je reviens à ce jeune homme de 19 ans qui met les pieds pour la première fois en Inde. Qu'est-ce qu'il te reste aujourd'hui, des années plus tard? Si tu devais nous recréer un petit peu, refaire un puzzle avec les morceaux de souvenirs que tu as dans ta tête et l'ambiance sonore que tu retrouves, que tu découvres là-bas en arrivant.
Alors, ce dont je t'ai pas encore parlé, évidemment, c'est cette structure que j'ai créée, qui s'appelle depuis maintenant 3 ans photovoyageur.com. Et j'emmène mes clients, qui deviennent petit à petit des copains, donc ces photovoyageurs, je les emmène exactement redécouvrir ces sensations, ces rencontres que j'ai pu avoir, moi, quand j'avais 19 ans en Inde. Donc, que ce soit en Inde ou dans tous les autres pays où je vais, où je les emmène aujourd'hui, c'est cette rencontre humaine que je mets en avant. Alors oui, on est obligé, on ne peut pas manquer la Tour Eiffel, on ne peut pas manquer l'Arc de Triomphe dans ces pays-là. Il y a toujours il y a un Taj Mahal, il y a toujours une pagode extraordinaire en Birmanie. Je veux dire, que ce soit chez les Papous, il y a toujours des endroits extraordinaires aussi à découvrir, des gens. Mais avant tout, l'humain, la rencontre, l'expérience, le vécu, partager un repas avec eux, partager leur case, tout en restant un peu plus dans le confort que ce que je n'étais quand j'avais 19 ans et que je dormais dans la rue, dans les trains, etc. Ça, je n'inflige pas ça à mes clients aujourd'hui, puis les temps ont quand même changé. Donc, on fait ça on est un peu plus dans des petits hôtels de charme, mais on mange encore dans la rue. Moi, vous ne me ferez pas manger je leur dis, vous ne me ferez pas manger au buffet de l'hôtel. Je veux bien prendre le petit déjeuner le matin, mais ça s'arrête là. Ne me faites pas manger, je ne vous emmènerai pas manger dans un buffet d'hôtel à midi ou le soir. D'abord, vous risquez de choper la chiasse, vous risquez toutes sortes de maladies parce que c'est remis dans des congélos, des frigos et c'est resservi le lendemain. Par contre, la street food, la nourriture qu'on mange dans la rue, dans tous ces pays-là, est fabuleuse, est extraordinaire. C'est une découverte, c'est un moment encore de rencontre parce que le gars qui vous sert le thé en Inde, le chai, la sortie du temple où là, le gars va vous offrir des bananes, où vous allez manger des samosas au coin de la rue. Mais ce sont des moments mais fabuleux de rencontre. Et de photos aussi, parce qu'évidemment, dès qu'on est accepté, dès qu'on n'a plus l'impression de voler une image, on n'a plus l'impression de leur tomber dessus à 6 comme ça, parce que j'emmène 6 personnes, pas plus, mais ce n'est pas gênant. On rigole, ça devient gag, la population autour vient se mettre autour, ça attire des gens, on parle avec d'autres gens. Il y a le prof ou le prof qui va arriver en disant « Ah, mais vous faites quoi, machin ?» Et puis, il va nous inviter à boire le thé chez lui. Donc ça, c'est vraiment le voyage ouvert. C'est comme ça que je l'imagine encore aujourd'hui.
Donc toi, ce qui t'a amené à emmener des voyageurs, des photographes voyageurs sur les routes du monde, c'est vraiment cette envie de partager ton propre itinéraire, les propres instants magiques que tu as pu vivre grâce aux rencontres que tu as faites.
Je pense que c'est ça, en effet, bien avant la photo. La photo m'a servi. La photo est un instrument qui permet d'aller à la rencontre de l'autre. Et aujourd'hui, c'est ce que j'apprends ou j'essaye d'apprendre à mes clients, c'est de voyager autrement. Et je les aide à aller vers l'autre. Je les aide à aller à la rencontre de l'autre. Beaucoup sont un peu réticents, ils ont un peu peur, ils sont timides. Ils ont peur de photographier l'autre aussi. Mais aujourd'hui, je pense que depuis maintenant petite dizaine d'années, en tout cas depuis 5-6 ans, c'est phénoménal la différence. Les gens aujourd'hui s'habituent à leur image, n'ont plus peur de leur image parce que avec cette mode de selfie, mais de selfie que l'on retrouve dans les tribus amazoniennes ou chez les Papous ou en Corée du Nord, où j'étais encore là il y a moins de 6 mois, en Corée du Nord, les gens font des selfies. Et donc, ils font des selfies et si tu es là, ils t'invitent pour le selfie parce que tu es l'étranger, tu es le blanc, tu es ceci, tu es la curiosité. Eh bien oui, tu te prêtes au jeu, il n'y a pas de raison. Tu fais des photos d'eux, ils font des photos de toi et c'est un échange mais extraordinaire. Et en plus, sur nos appareils aujourd'hui, ce que je n'avais pas moi à l'époque, il y a toujours ce petit écran derrière qui permet de montrer aux gens la photo qu'on vient de faire. Donc, il y a un partage. Et puis, évidemment, au moment de ce partage, vous la voulez à la photo là où ils te disent tu pourrais me l'envoyer cette photo? Ben oui, ben donne-moi ton adresse Facebook, donne-moi ton Insta ou donne-moi ta boîte mail. Et finalement, même le papy ou la mamie en Inde, il a toujours à côté, pas très loin, sa petite fille ou son petit-fils. Et il va dire viens, donne-moi ton Facebook, il va nous envoyer la photo. Et je le fais systématiquement. Donc ça, c'est un moment aussi de partage fabuleux. Parce que ces gens-là, je serai appelé à les revoir tôt ou tard. Quand dans mes voyages photos, je retourne un an plus tard pour faire quasiment le même voyage, parce que ces voyages, en tout cas ceux que je préfère, je les pérennise, je retrouve les mêmes personnes. Donc je leur rapporte, eux, des tirages, là, carrément, à l'ancienne. Donc je leur ramène un petit 20-30 ou un petit 18-24 de la photo que j'avais faite d'eux, ou de la photo où on est avec eux, où ça reste un souvenir extraordinaire. Et du coup, de les revoir un an après, mais il vous ouvre les bras, quoi. C'est extraordinaire. C'est un moment de convivialité fabuleux.
Pour revenir à cette période, il y avait le Magic Bus qui partait, je crois, de Amsterdam pour aller jusqu'à Katmandou. Toi, tu avais choisi l'avion. Pourquoi pas le bus à ce moment-là?
Et non, j'ai choisi l'avion parce que, bah voilà, peut-être que j'avais encore des goûts de luxe à l'époque. Hein, je savais pas trop. C'est mon premier voyage. J'ai retrouvé des photos il y a pas très longtemps où je suis en short blanc avec un t-shirt blanc et un sac à dos kaki style scout, donc très très classe, très très propre sur lui, et je suis parti comme ça. Ceci dit, la deuxième fois quand je suis parti, non, je suis parti comme tout le monde de la porte d'Orléans en stop, hein. Et je suis parti en stop de la porte d'Orléans, ça a pas bien marché, et je me suis embarqué en train ensuite, et j'ai fait la route par la Yougoslavie, l'Italie, Venise, machin, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, etc. Mais à l'époque, c'était à la fois du stop, et en même temps, on pouvait, parce qu'on avait ce privilège d'être étranger, d'être blanc, et on montait dans des bus ou dans des trains sans payer. Donc, tu montais dans un train, tu disais que tu n'avais pas d'argent, allez, c'est bon. Tu montais dans un bus ou dans un minibus en Iran, tu disais que tu n'avais pas d'argent, bon, ça les faisait marrer, allez, monte. Et on prenait un minibus ou on prenait un bus. En Afghanistan, je me suis retrouvé dans des bus où tu étais stone rien qu'à monter dans le bus, parce qu'à l'intérieur du bus, tout le monde fumait, le chauffeur y compris, et qui se faisait des courses, sur la route entre bus pour se dépasser, se redépasser. Je ne sais pas comment je suis encore en vie aujourd'hui. Jamais je monterai dans un bus comme ça aujourd'hui, quoi. Mais bon, à 19 ans, tout est permis.
Je reviens sur le voyage et le mot voyage. Qu'est-ce que c'est que pour toi voyager? Comment tu définirais un voyage? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et pourquoi, selon toi, c'est important de vivre cette expérience?
Bah, le voyage, je pense que c'est un truc complètement... C'est intime, c'est intérieur. Et surtout, le voyage, comme on l'envisage, c'est-à-dire le voyage un peu lointain, le voyage de découverte, le voyage de rencontre, je pense qu'il commence dès qu'on sort de la porte de chez soi. On fait 10 mètres, le commerçant qui est en bas de la rue, c'est déjà le début du voyage. J'avais, quand j'enseignais le photojournalisme, quand j'avais monté cette école, je leur disais, mais vous savez, le sujet là, les sujets de presse que vous allez trouver, les sujets que vous allez essayer de découvrir, de faire pour les vendre à la presse, ça commence en bas de chez vous. Et le plus bel exemple que j'ai, c'était un de mes anciens étudiants. On allait quasiment, on était dans le 9e arrondissement, donc l'école était dans le 9e, rue des Petites Écuries. Et dans le quartier, énormément de restaurants turcs et arméniens, hein, turcs et arméniens, oui, et kurdes. Et à force d'aller dans les restaurants turcs, bah, on allait aussi beaucoup dans les restaurants kurdes. Et puis on s'est rendu compte que bah, ce n'était pas des Turcs, mais c'était des Kurdes et que les Kurdes étaient un peu engagés, etc. Et bah, cet étudiant a été le premier à faire le premier reportage sur le Kurdistan, les Kurdes, le PKK, etc. Donc la rébellion, la guérilla kurde, etc. Et il est parti de la cuisine en fait, du restaurant kurde qui était à 20 mètres de l'école. Donc la vie, elle commence là. Le voyage, il commence là. Et je parle de voyage parce que c'est du reportage, mais le reportage, c'est du voyage. Comme je te disais tout à l'heure, la photo n'a été pour moi qu'un instrument qui a continué de me permettre de voyager. D'arrêter de faire de la photo, demain, ça ne me pose pas de problème. Mais d'arrêter de voyager, ça serait terrible. Et la photo est mon fil conducteur. La photo me permet de voyager. Elle me permet d'aller à la rencontre de l'autre. Elle me donne le prétexte et la possibilité de rencontrer l'autre. Je peux ouvrir des portes. Demain, j'ai aucun scrupule à ouvrir une porte ou à aller interroger quelqu'un ou parler à quelqu'un. C'est une aide pour aller à la rencontre de l'autre. Il y a des fois, on ose, moi-même, hein, je me dis, ben là, j'ose pas. Et puis en fait, avec l'appareil photo, on ose tout. On ose tout et on a un prétexte, on a une raison. C'est-à-dire qu'on va pour les photographier, pour photographier quelqu'un, pour s'intéresser à quelqu'un. Je me suis retrouvé, politiquement, je suis quelqu'un qui a toujours été très à gauche, mais ça ne m'a pas empêché de rencontrer des gens d'extrême droite, du Ku Klux Klan aux États-Unis, des white supremacists aux États-Unis ou en Afrique du Sud. Je vais dans tous les milieux. Professionnellement, en tant que photojournaliste, je pouvais être avec la reine d'Angleterre le matin et au fond d'une mine avec des mineurs de charbon l'après-midi. Et j'étais aussi bien et j'étais aussi à l'aise dans les deux cas.
C'est ça qui est intéressant dans le voyage, c'est qu'on va connecter la personne en face de nous dans son humanité. Et on se rend compte qu'il y a un langage qui est universel, c'est celui des émotions souvent. On partage tous les mêmes émotions, donc quels que soient nos bords politiques, quels que soient nos modes de vie, finalement ce qui nous relie, c'est quand même cette humanité qu'on partage.
Complètement, et c'est vrai, là, dans l'exemple que je te donnais, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où les gens t'acceptent, c'est-à-dire qu'ils te font confiance, quelles que soient leurs opinions, quel que soit ce qu'ils peuvent avoir. Récemment, je viens de photographier des gens qui étaient d'une timidité, mais sans nom. Mais au bout d'une demi-heure, la glace était rompue. C'est fini, on se tapait sur l'épaule, on buvait un coup ensemble. S'il faut fumer un joint ensemble, ça ne me pose pas de problème. C'est quelque chose de... C'est ça le partage. Mais c'est extraordinaire, tu rentres dans la famille.
Et c'est ça qui reste dans les mémoires, finalement. On peut s'émouvoir de voir un beau paysage, mais c'est une rencontre qui va vraiment rester imprimée à l'intérieur de soi et qu'on va avoir envie de partager des années après avoir fait un voyage.
C'est comme ça que je garde des images en tête de rencontres et des moments que j'ai partagés avec ces gens-là de manière extraordinaire. 40 ans après, je me souviens, mais je m'en souviens comme si c'était hier, des rencontres, mais c'était hier. Ces gens-là ne sont peut-être plus là aujourd'hui, mais c'était hier. Et ça m'est arrivé de retrouver des gens 20 ans après sur une photo. Je crois qu'un des plus beaux exemples, c'est ce type que j'ai rencontré un jour à Jaipur. C'était dans mon premier voyage en Inde, le deuxième voyage en Inde. Et je rencontre là-bas un jeune qui a les cheveux au-dessus des épaules et qui donne à nourrir aux singes à Jaipur, dans un quartier qui est... un peu où c'est connu, il y a beaucoup, énormément de singes. Et ce type, je l'ai revu 40 ans après, 30 ans après, avec des clients. Et j'étais parti donc à Jaipur. Et je l'ai revu au même endroit. Il avait évidemment pris quelques années, il avait pris 30 ans ou 40 ans. Oh, je ne sais pas si ça fait... Je peux pas dire c'est 30 ou 40. Mais bon, il avait pris un peu d'embonpoint, toujours les cheveux sur les épaules. Il était en vélo. Et j'ai appris qu'il arrivait tous les jours à la même heure pour nourrir les singes du quartier. Ça a été son dévouement. Il s'est dévoué aux singes de ce quartier de Jaipur. Il est devenu le héros d'un film que National Geographic a fait sur les singes de Jaipur. Ils l'ont appelé l'homme singe. et je l'avais photographié 40 ans avant. Et quand je suis revenu le voir, la deuxième fois, alors la première fois, je lui ai dit, il ne se souvenait évidemment pas de moi, mais je lui ai dit que je l'avais photographié et que j'avais des photos de lui. Et l'année d'après, je suis revenu, je lui ai apporté les photos que j'avais faites de lui 40 ans ou 30 ans avant. Ça a été un moment mais inoubliable. Et il y a 2 ans de ça, j'ai pas pu malheureusement y aller. Il m'a invité pour le mariage de sa fille.
Extraordinaire.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Patrick, le voyage fait partie de ta vie. Ça fait plus de 50 ans que tu voyages. Aujourd'hui, les jeunes générations veulent elles aussi voyager. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu leur conseilles ? Qu'est-ce que tu leur dis à tous ces jeunes qui veulent prendre la route aujourd'hui ?
Foncez, foncez, foncez. Ça vous ouvrira l'esprit. Allez voir ce qui se passe ailleurs, allez voir la vie. C'est pas en restant chez vous, c'est pas en restant chez papa, maman, c'est pas en restant à travailler dans une usine ou à travailler dans un endroit où vous allez être de 8h à 17h à aller pointer, c'est pas là. Les gens que je croise le plus aujourd'hui en voyage, ce sont des jeunes qui sont extraordinaires, qui sont souvent des saisonniers, qui sont des gars qui font la saison d'hiver à la montagne ou la saison d'été sur les plages. Et puis dès qu'ils ont mis 3 francs 6 sous de côté, ben ils prennent la route. Prenez la route et foncez.
Mais il y a une réalité aujourd'hui qui nous rattrape un peu tous. Avant, dans ton bureau, je voyais une étagère avec des guides papier, des guides du Routard ou des Lonely Planet. Aujourd'hui, on voit cette évolution très rapide du monde où tout le monde voyage, mais avec son smartphone, où tout le monde est hyper connecté. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, toi qui es le témoin finalement de cette avancée, de cette évolution technologique dans les voyages ? Tu as commencé avec 3 ou non 5 pellicules de 36 poses. Aujourd'hui, ben, tu as aussi un boîtier numérique. Donc, comment est-ce que ça a transformé les relations ? Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans tes voyages ?
Alors, le côté papier, les guides et tout ça, évidemment, ça permet de débroussailler un petit peu l'endroit. On peut partir encore le nez au vent, hein, ça se fait encore, etc. Mais on gagne un petit peu de temps aujourd'hui en partant avec des guides. Tu parlais du guide du Routard. Oui, le guide du Routard, mais j'étais en fac, moi, avec le patron du guide du Routard, avec le créateur du guide du Routard. C'était une autre époque aussi. Le guide du Routard, il avait le sac à dos et c'était la planète. Et c'était ça, son sac à dos. Et il parcourait la planète. Aujourd'hui, le guide du Routard, c'est devenu un petit peu le guide des Bobo, le guide, voilà. Il y a des bonnes adresses, c'est super bien fait, c'est bien, c'est correctement vérifié dans la plupart des cas, c'est vraiment bien fichu. Ça vous débroussaille le terrain. Donc ça, c'est intéressant. Même moi, en tant que photographe, je regarde encore, je lis le guide du Routard parce qu'ils ont gardé cet œil de découverte, de rencontre, de partage. Ils ne vont pas hésiter à vous donner un endroit fabuleux où il faut aller voir le lever de soleil. Ils vont vous dire, montez en haut de cette montagne et puis voilà, profitez-en, ou un coucher de soleil. Ils vous donneront un bon plan sur une gare ferroviaire où ils vous diront, bah, allez traîner dans cette gare-là et vous allez voir des trucs extraordinaires. Là, on a encore des conseils de l'ancien Routard, du vrai Routard. Le Routard, il a été... Moi, j'ai, avant d'être Routard, j'étais hippie, beatnik. On prenait la route parce que, voilà, c'était d'aller à la rencontre des autres. C'était aimez-vous les uns les autres, quoi. C'était d'aller chercher ce partage. Et oui, il y avait une soif d'aventure, une soif de découverte, une soif de culturelle même. Moi, aujourd'hui, dès que je pars en voyage, je découvre, je continue de découvrir. J'ai des copains de mon âge qui me disent « Mais t'en as pas marre de voyager ?» Mais non, c'est ma passion. Moi, le voyage, mais c'est de rencontrer des gens. Une semaine dans mon bureau à travailler sans rencontrer personne, mais je pète les plombs. J'ai qu'une envie, c'est de repartir. Donc, les jeunes, oui, mais partez, profitez-en maintenant, profitez-en avant d'être marié, profitez-en avant d'avoir des enfants, profitez-en quand vous n'avez pas encore de responsabilité, profitez-en. Vous pouvez maintenant encore tourner la page ou pas la tourner, mais allez-y.
Bah, tu me fais beaucoup de bien en t'écoutant, parce que j'ai tendance à croire que c'était mieux avant, que voyager avant, il y avait un peu plus de surprises, l'effet de surprise était présent, alors qu'aujourd'hui, avec tous les moyens modernes, on sait où on va, on sait à quoi vont ressembler les gens, j'ai l'impression qu'il n'y a plus le même émerveillement qu'avant.
Aussi, si, ça existe encore, l'émerveillement est pareil. Il y a des pays, il faut s'y précipiter maintenant, je parle aux routards, là, hein. Je parle aux voyageurs, aux saisonniers. Aller en Birmanie, continuer d'aller en Inde, continuer de découvrir l'Asie, l'Amérique latine. L'Amérique latine, il y a des coins extraordinaires. L'Afrique est très peu courue. Le continent africain est fabuleux. Sortez du tourisme de masse, sortez de certains pays qui sont mis en avant par tous les tours opérateurs parce que c'est du business et qu'il y a des animaux ou que machin, où on va voir les tribus aujourd'hui, mais comme on va aux zoos, sortez de ce côté-là. Il y a autre chose à voir, il y a autre chose à vivre. Allez en Afrique, en Asie, en Océanie et allez le vivre vous-même. Moi, je vois beaucoup de gens partent sur l'Asie parce que l'Asie est plus facile, l'Asie est peut-être plus attirante ou en tout cas, elle paraît plus facile, mais l'Amérique latine ou l'Afrique est tout aussi agréable et les rencontres sont extraordinaires. Malheureusement, il y a certains pays qui aujourd'hui ferment leurs portes ou disons nous ferment leurs portes de par les situations politiques, sociétales, sociales. Il y a la guerre dans certains pays, il y a des conflits, on évite certains pays. Je conseille aussi pour beaucoup de nanas qui ont envie de voyager seules, de pas partir seule. Autant un mec peut partir seul dans beaucoup de pays, autant une nana ne partira. Je ne conseille pas une nana de partir seule dans certains pays. En particulier, je vais dire l'Inde. Il y a une Inde qui est facile et il y a une Inde qui est difficile. On a une Inde, l'Inde fait rêver. L'Inde, c'est zen, c'est hindouiste, c'est fabuleux, c'est le yoga, c'est l'ayurvédique, c'est tout ça. Il n'y a pas que ça. En Inde, c'est le système de caste qui est un système opprimant, qui est un système où on écrase la femme, où l'enfant n'a pas de droit. Il y a une Inde qui est abominable. L'Inde d'aujourd'hui, en plus, avec le gouvernement qui est en place, ce n'est pas facile du tout. C'est une Inde qui est intégriste, qui est fondamentaliste et c'est tout ce qu'on n'aime pas. Vous voulez aller en Inde, évitez l'Inde du Nord, partez en Inde du Sud avec des gens qui se sont des populations, des États qui se sont opposés par exemple à l'hindouisme, qui refutent ça, avec des États qui seraient peut-être plus aujourd'hui même chrétiens qu'hindouistes. Aller au Ladakh, aller dans le nord de l'Inde, pas au Cachemire. Malheureusement, le Cachemire est encore en guerre et pas très accessible et pas facile parce qu'il y a encore beaucoup de fondamentalistes là. Aller dans le nord-est de l'Inde, dans les tribus qui sont encore accessibles et qui vivent encore comme on vivait il y a un siècle. Il y a des endroits extraordinaires et vous serez accueillis à bras ouverts. N'hésitez pas, mais partez hors des sentiers battus.
Patrick, est-ce qu'il y a un âge pour voyager ?
Écoute, moi j'étais un lecteur de Tintin et je pense qu'on peut voyager facilement de 7 à 77 ans, sans problème.
Patrick, le photographe, donc photographe reporter, tu as commencé il y a longtemps, bien avant l'arrivée du numérique. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans le photoreportage ? Parce qu'on sait tous qu'il y a eu un âge d'or de la photographie. Comment tu te positionnes par rapport à aujourd'hui, 2020, être photographe reporter ou photographe voyageur ?
Alors je crois que je vais me mettre beaucoup de monde à dos en disant ça, mais on va vers une société, en tout cas on va vers une simplicité, on va tout doucement vers des smartphones qui prendront des photos extraordinaires. On y est quasiment déjà. Avec un smartphone aujourd'hui, on fait une double page dans un journal comme Géo ou Paris Match, ça ne pose aucun problème. Le smartphone vous fait des analyses de lumière qu'on ne peut même pas faire avec un appareil professionnel. Un smartphone, ça vaut 1000 euros, au mieux 1200 euros. Un appareil photo pro, ça vaut 7000 euros. Vous rajoutez à ça des optiques qui valent entre 3 et 4000 euros. On s'en sort et puis ça pèse un âne mort, ça pèse un poids, mais pas possible. Le smartphone est discret. Le smartphone, vous le sortez de votre poche. Aujourd'hui, j'emmène des clients, moi, à l'autre bout du monde. Et à partir du moment où je les amène au bon endroit et au bon moment, ils font les photos que je faisais, moi, avec mon matériel professionnel. Et il m'arrive encore aujourd'hui dans certaines conditions de lumière, dans des endroits où il faut être très discret, de sortir de mon smartphone, non pas pour faire des photos, parce que je diffuse encore mes photos dans le monde entier, donc en très haute définition, mais je sors mon smartphone pour faire une vidéo. Et une vidéo que je ne peux pas faire autrement qu'avec mon smartphone, parce que je dois être discret, parce que... Et puis la qualité est extraordinaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi ça a été un gros coup que j'ai pris en 2000 de l'argentique au numérique, ça a été un gros problème. Mais ça a été un problème général dans la presse. La photo a perdu énormément à ce moment-là. Tout le monde est devenu photographe. Il suffit de regarder aujourd'hui sur Facebook le nombre de gens qui accolent à leur nom une petite parenthèse avec marqué dedans « photographe ». Mais il ne faut pas oublier que photographe, c'est un métier. C'est pas seulement faire une photo, faire clic, mais c'est apprendre à cadrer, c'est apprendre à regarder, c'est apprendre à anticiper. Et c'est tout ça aujourd'hui que j'essaye de communiquer à mes photovoyageurs quand je les emmène à l'étranger. C'est aussi ce que j'essayais de communiquer dans mon école de photojournalisme à ces photographes qui venaient, qui rêvaient de faire ce métier. Donc ce métier est en train de, je pense, renaître un petit peu aujourd'hui avec beaucoup de collectifs de photographes, avec des gens qui envisagent des jeunes, bon, ils sont beaucoup plus jeunes, je parle d'une catégorie d'âge là de 20 à 35 ans, qui travaillent différemment, qui travaillent aussi en vidéographie, donc qui travaillent aussi bien en photo qu'en vidéo, et qui ont d'autres moyens de faire passer leurs images. On ne dépend plus aujourd'hui de la presse photo, elle ne paye plus. Un reportage dans Géo ou dans le Figaro Magazine ou dans VSD ou je ne sais quoi, ou dans Grand Reportage, ne paye plus. On ne peut plus vivre avec ça, c'est plus possible. Donc il faut trouver, à mon avis, là, d'autres systèmes de distribution, d'autres diffusions, d'autres créneaux. Je pense qu'il faut rester ouvert à ça et il faut trouver. Par contre, il faut se creuser la tête pour essayer de trouver comment continuer à vivre de ça. Moi, j'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir allier la photo et le voyage, donc deux de mes passions, et de pouvoir continuer aujourd'hui à l'âge que j'ai, de continuer de la même manière et de partager aujourd'hui avec mes photovoyageurs.
Patrick, merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.